La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Optimiste. Ce soir, l'Optimiste est un peu triste car hier, c'était la der des volontaires en service civique à nos côtés. Mais qu'à cela ne tienne, elles seront quand même un petit peu avec nous ce soir. Au programme, donc, une interview de Marlène Coulon-Gully, rencontrée à l'occasion des assises du journalisme à Tours. Cette chercheuse revient avec nous sur les représentations du genre dans les médias. En seconde partie d'émission, un micro-trottoir, une balade sonore même d'Elisa, qui sera allée avec nous dans les travées du jardin des plantes. Ajustez votre gilet de sauvetage, l'Optimiste largue les amarres. Mais avant tout, ce soir, c'est la 11e édition de Tout Angers bouge. Salut Maxence.
Bonjour Hugo.
Dimanche, Tout Angers bouge donc, et ça faisait 2 ans que les Angevins et les Angevines n'avaient pas pu profiter de ce rendez-vous incontournable. Et comme tu vas nous l'expliquer, il y a eu de nombreux changements.
Oui, tout à fait, avec une révolution cette année, fini le centre-ville et place au lac d'Angers, anciennement le lac de Maine. Une première dans l'histoire de l'événement. Le grand absent est le célèbre défi Saint-Maurice, ce défi qui avait pour but de monter le plus vite possible les 103 marches qui mènent à la cathédrale, ne sera donc pas présent au programme. Le défi des serveuses et garçons de café n'est quant à lui pas reconduit. Cette course qui réunissait des serveurs munis d'un plateau et qui traversait sur 2 km les rues du centre-ville. Par contre, lors de cette édition, sera l'occasion de revoir le relais des Ducs, qui fait son apparition pour la deuxième fois consécutive.
Mais au-delà des événements qui ont évolué, évidemment, il y a aussi les lieux.
À noter le retour du château d'Angers sur le parcours des trails, après avoir été écarté en 2019. La patinoire Angers Ice Park et le pont des arts et métiers font leur entrée sur le tracé des coureurs. Au niveau des lignes de départ, cette année, il y aura le pont de la Bachène, la coulée de Seran à la Savenière et le site de l'ADEME. Tandis que pour les arrivées, grande première, elles se feront toutes à l'esplanade du lac de Maine.
Merci beaucoup Maxence, et on attend 4000 coureurs dans les rues d'Angers. Est-ce que tu y seras ?
Je n'y serai pas malheureusement, puisque j'ai un tournoi de foot dimanche.
Mais... Ah oui, donc tu seras quand même partie des sportifs du dimanche.
Oui, c'est ça.
En tout cas, si pour tous ceux qui, comme moi, n'y seront pas, qui ne feront pas corps avec ces braves sportifs, rendez-vous au village des associations pour découvrir et peut-être se mettre à faire du sport avec une centaine d'associations et de clubs de sport, tous différents. À l'occasion des assises du journalisme à Tours, Sophia a rencontré Marlène Coulon-Gully, chercheuse sur les représentations du genre dans les médias.
Bonsoir Marlène Coulon-Gully.
Bonsoir.
Donc vous êtes chercheuse et professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse. Et vous avez participé avec beaucoup d'autres chercheurs et chercheuses à l'étude GMMP, donc Global Media Monitoring Project. C'est la plus grande étude internationale sur le genre dans les médias, sur la présence des femmes, sur les stéréotypes de genre dans les médias. Et concrètement, vous prenez donc un jour de production ordinaire d'information toutes les 5 ans et vous mesurez donc la part des femmes dans les nouvelles et dans les journalistes qui produisent justement ces informations. En ce qui concerne le dernier rapport donc de 2020, vous avez constaté qu'il y avait 30% des femmes dans les nouvelles et 40% des femmes journalistes. Est-ce que, pour commencer, vous pourrez commenter ces résultats ?
Alors, que vous dire ? Alors, ces résultats nous ont déçus. On attendait beaucoup de cette édition 2020 du GMMP, parce que c'était la première après MeToo. que ça fait des années qu'on travaille avec un certain nombre de grands médias pour les sensibiliser à cette question. Et on s'était dit que, ma foi, cette édition du GMMP pourrait peut-être nous permettre de toucher du doigt un certain nombre de progrès et nous permettre peut-être de récolter le travail de formation et d'information qu'on avait pu faire sur ce sujet auprès des médias. Alors, c'est vrai qu'on avait eu quelques alertes, puisque après l'enthousiasme qui nous avait porté suite au mouvement MeToo et à cette prétendue libération de la parole des femmes, libération de l'écoute, il y avait eu la Ligue du LOL qui, au niveau des médias, nous avait rappelé que les choses étaient ce qu'elles étaient, mais en même temps que les choses finissent par être dénoncées était pour nous une bonne nouvelle. Et puis il y avait eu surtout cet épisode du Covid où on avait vu les femmes passer totalement à la trappe et disparaître de l'information qui était devenue une information extrêmement, extrêmement masculine, où la parole d'autorité était devenue une quasi-exclusivité masculine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces soirées à la télévision en particulier, où on voyait défiler des professeurs de médecine, etc., où les femmes avaient totalement disparu, et cette disparition était inquiétante au point que Marlène Schiappa, qui était à l'époque secrétaire d'État aux droits des femmes, avait opéré une saisine et demandé qu'une étude soit faite sur la question.
Et vous avez fait cette enquête pour la première fois en 1995, si je ne me trompe pas. Est-ce que les résultats de cette année-là, ils étaient étonnants pour vous également, dans quelque part, ou est-ce que c'était plus ou moins ce que vous avez attendu? Alors, pardon.
Je n'ai pas personnellement coordonné l'enquête de 1995.
D'accord.
Et de mémoire, la France n'était pas à l'époque partie prenante de cette enquête du GMMP. Donc la France n'est réellement entrée en lice, si je puis dire, qu'en 2010. Donc j'ai coordonné effectivement pour la France l'enquête du GMMP en 2010. La France a continué d'intégrer cette étude en 2015. Et ce qu'on a vu, c'est que les progrès étaient loin d'être linéaires. C'est-à-dire que certaines enquêtes, celle de 2010 par exemple, nous montraient des chiffres de représentation, je ne les ai plus exactement en tête, il faudra que vous les retrouviez, qui étaient, disons, de 27% de femmes citées dans les médias, et on se rend compte qu'en 2015, elle chute à 24%, pour remonter à 30% en 2020. Je parle là des femmes qui sont représentées dans les médias. Donc ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de progrès linéaire et que voilà l'optimisme dont on veut essayer de faire preuve quand on travaille sur la question du genre dans les médias doit être lucide et doit prendre en compte le fait que si derrière les féministes, les personnes éprises d'égalité ne poussent pas en permanence et ne sont pas vigilantes, il n'y aura pas de progrès linéaire.
Justement, à propos de progrès, vous avez dit que ces résultats ont été globalement décevants pour cette année 2020. Donc pourquoi, d'après vous, la prise de conscience générale qu'il y a eu sur les questions des genres, sur les questions de féminisme, après la vague de MeToo aussi, peine à se faire entendre dans les médias aussi ?
Alors on a travaillé avec un certain nombre de médias et on ne peut pas nier le fait qu'il y ait eu une prise de conscience, hein, puisque les médias ont quand même été directement interpellés par MeToo. On sait que certains d'entre eux ont nommé une gender editor pour essayer de faire avancer les choses. D'autres, même s'ils n'ont pas nommé ce type, s'ils n'ont pas décrété ce type de fonction, ont travaillé avec leurs équipes pour faire en sorte que la parité soit mieux prise en compte, mieux intégrée. Mais je crois qu'il y a là une inertie qui est absolument considérable. J'ai l'habitude de citer Foucault qui parle des médias comme de technologie de genre. De Teresa de Lauretis qui, reprenant la formule, dit ce sont avant tout des technologies, enfin non, plus exactement, Foucault parle de technologie de pouvoir et Teresa de Lauretis en parle comme de technologie de genre. Et je pense effectivement que les journalistes sont porteurs de cette espèce d'insu structurellement sexiste et que, et ça c'est Foucault qui le dit et je partage assez son point de vue là-dessus, les technologies de pouvoir se caractérisent par une profonde inertie. Cette inertie est leur force. Et quelles que soient finalement les pressions et les impulsions que l'on peut s'efforcer d'exercer, ils répondent par cette forme d'inertie. Donc il faut que les pressions soient très, très, très grandes pour réussir à faire bouger les choses.
Et comme dit, l'enquête est basée sur un jour chaque année. Comment choisissez-vous le jour exact ?
Alors, ce n'est pas chaque année, c'est tous les 5 ans.
Pardon, je suis tous les 5 ans. Je me suis trompée.
Alors, ce n'est pas nous qui le choisissons. Hein, c'est, disons, l'équipe qui pilote le GMMP au niveau mondial. C'est une équipe canadienne, en l'occurrence. Et sont exclus, a priori, le dimanche et le vendredi, parce qu'en fonction des religions, ce sont des jours qui sont fériés. En général, le lundi n'est pas pris en compte non plus. Le mercredi est problématique parce que très souvent, les enfants n'ont pas d'école, etc. etc. Donc, ce sont des jours ouvrés, ce sont des jours où l'on travaille et ce sont des jours où on imagine, voilà, on pense que les hommes et les femmes ont une activité régulière, qu'ils sont choisis. Donc, finalement, très souvent, le mardi ou le jeudi.
J'avais une question, c'est du coup concernant ce jour, le fait que ce soit concentré que sur un jour, les études, ça peut poser des questions notamment sur les résultats en soi, est-ce qu'ils sont continus, surtout que c'est tous les 5 ans, du coup qu'est-ce qui reflète vraiment ces résultats, quel est votre avis là-dessus ?
Je me comprends bien. Alors d'abord, bon, l'explication, vous la connaissez, si ça n'est qu'un jour, c'est parce que ça mobilise des centaines, je n'ai plus le chiffre en tête, mais un nombre considérable de militants, militantes, chercheurs, chercheuses, et que dans la mesure où c'est mondial, on ne peut pas multiplier le nombre de le nombre de périodes prises en compte, ni la longueur des périodes prises en compte. Mais ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'en dépit de tous les aléas qui sont effectivement liés au fait qu'il ne s'agisse que d'un jour, ce que montrent les études qui reposent sur des bases différentes, hein, comme celle qui a été évoquée notamment par les deux collègues sur Gender News, même si eux travaillent en continu sur la question de la représentation des hommes et des femmes dans les médias, on se rend compte finalement que ce one shot qu'on fait une fois tous les 5 ans est tout à fait, enfin, propose des résultats tout à fait conformes. Donc ça, c'est plutôt rassurant, même si, dans le détail, je vous rejoins, ça comporte une part d'aléas que l'on vérifie d'ailleurs sur d'autres items. L'intérêt de ne le faire qu'une fois tous les 5 ans, c'est qu'on peut en faire une espèce de marqueur au niveau de l'espace public. Les gens, quand les gens, les médias, les journalistes savent que les résultats du GMMP vont sortir, il y a une forme de mobilisation. C'est vrai aussi auprès des pouvoirs publics et des politiques. Donc on peut se servir de ce qui peut apparaître comme un inconvénient, comme d'une force, en se disant que c'est une façon de mobiliser l'espace public sur cette question-là.
Et justement, vous avez parlé de Foucault tout à l'heure, et à propos de la technologie de genre, on peut aussi citer ce que vous avez cité aussi dans la table ronde tout à l'heure, c'est que les médias sont performatifs, c'est-à-dire qu'ils contribuent à la construction de la réalité, et donc ils ont une part de responsabilité importante dans la représentation genrée et sexiste du monde. Donc voilà, comment vous réagissez là-dessus, sur cette responsabilité des médias ?
Eh bien, quand on discute avec des journalistes au sein des rédactions, on fait appel à leur sens de la responsabilité en disant qu'ils participent directement à la construction de l'espace public à travers les images qui sont véhiculées ou qui ne sont pas véhiculées, à travers les mots qui sont dits comme à travers les mots qui sont tus. Donc cette responsabilité des médias dans le façonnage, dans la construction du monde social, elle est très importante. Et je crois que c'est important, notamment pour vous qui vous lancez dans le métier de journalisme, d'avoir à l'esprit cette responsabilité qui est la vôtre.
Et juste pour conclure, vous avez évoqué tout à l'heure le gender budgeting aussi, donc une espèce de soutien des pouvoirs publics aux médias qui s'engagent pour les l'égalité de représentation des femmes et des hommes, en quoi ça peut être une solution? Est-ce que ce serait peut-être aussi discriminant vers d'autres médias?
Alors, on est là en train de réfléchir, je crois, collectivement, à la façon dont on pourrait pousser les médias à continuer ou à commencer, pour certains d'entre eux, à se poser la question de l'égalité de genre. Alors, cette idée du gender budgeting avait été proposée il y a un certain nombre d'années par le Haut Conseil à l'égalité et très mal reçue par les médias qui voyaient là une forme de censure qu'on voulait leur imposer et leur opposer. Alors, ça fait une dizaine d'années à peu près, je crois que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. On a vu que le CNC, le monde du cinéma, s'était saisi en tout cas de cette possibilité et le voyait peut-être moins comme une sanction. Il s'agissait moins de pénaliser des médias qui n'étaient pas vertueux que de valoriser les médias qui l'étaient. Bon, mais ça pose quand même un certain nombre de questions, et notamment ceux des indices, du panier d'indicateurs que l'on va mettre, que l'on va prendre en compte pour considérer qu'un média est gender-friendly ou pas.
Et puis, j'avais aussi encore une question, c'est concernant les travaux, les recherches que vous avez effectuées. Quels sont les points que dans les prochaines années, vous aimeriez voir évoluer? Comment vous voyez les points, je sais pas, des envies particulières que vous avez envie de développer et que vous n'avez pas pu lors du dernier rapport?
Alors, il y a la question de la diversité, bien sûr, et de l'inclusivité des médias sous toutes ses formes. Bon, vous évoquiez justement la question des personnes handicapées. Voilà, ça, ce sont des points. Donc, la question de la diversité des personnes racisées, des personnes issues de classes sociales défavorisées. Ce sont des points, évidemment, sur lesquels il va falloir qu'on apporte des réponses et qu'on pose des chiffres. Mais voilà, il faut trouver les bons indicateurs pour rendre des études fiables quand on pose ce type de questions. J'évoquais dans la table ronde les problèmes qui étaient posés notamment par la question des personnes racisées. À l'heure actuelle, quand on essaye d'évaluer le nombre de personnes racisées qui sont présentes dans les médias d'information, c'est finalement la perception que peut avoir le chercheur ou la chercheuse de la racisation de la personne qu'on teste. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de dénouer et sur lequel il faut qu'on avance et qu'on réfléchisse collectivement.
Et pour finir, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pourriez souligner quelles sont les solutions exactes, comment résoudre cette inégalité qu'on voit chez les médias quand on regarde les femmes et les hommes?
Alors, je pense que la réponse, elle est collective. Il faut absolument que les citoyens, les citoyennes soient vigilants et refusent de cautionner un travail des médias qui soit sexiste. Donc, il y a une question d'éducation des citoyens et des citoyennes. Il y a une question aussi de formation des journalistes pour les rendre conscients, responsables sur ces questions. Alors, on sait que tous les journalistes ne passent pas par des écoles de journalisme, loin s'en faut, mais ça veut dire que dans la formation initiale et dans la formation continue des journalistes, il faut absolument qu'il y ait une part importante de ces questions qui soient traitées avec des volumes horaires conséquents, qui donnent des résultats. Et puis, bon, voilà, on a aussi la question du pouvoir public qui a été évoquée tout à l'heure avec l'hypothèse gender budgeting. Donc, on a des solutions, mais il faut qu'il y ait la volonté politique au sens large, pas seulement institutionnel, de les mettre en œuvre.
Merci beaucoup Marlène Coulonguilly. Je le rappelle, vous êtes chercheuse et professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse et vous avez pris partie à l'étude GMMP que vous pouvez consulter sur le site whomakesthenews.org. Je rappelle aussi que vous avez écrit plusieurs livres sur ce sujet de la représentation des hommes et des femmes dans les médias, notamment par exemple 8 femmes sur les plateaux. Je vous remercie beaucoup pour votre temps.
Merci à vous.
Thank you.
c'était Mirage de Franck Voest. Vous êtes toujours à bord de l'Optimiste sur les ondes de Radio Campus Angers. Et avec nous, pour continuer cette émission, dans les studios, Chloé. Salut Chloé.
Salut.
Tu vas nous parler ce soir de manspreading et de l'occupation de l'espace public par les hommes, qui est bien différent de celui occupé par les femmes.
Effectivement. Alors, le manspreading, on ne connaît pas forcément ce terme si on n'est pas dans des sphères militantes féministes. Mais je vais vous expliquer ce que c'est et surtout ce que ça peut impliquer en termes d'occupation de l'espace public par les hommes et les personnes perçues comme femmes. Le manspreading, ça a d'abord été développé comme concept par des féministes américaines. Le terme date de 2014 et il a vu le jour aux États-Unis. On peut le traduire en français par « étalement masculin ». Le manspreading, c'est l'habitude qu'ont les hommes d'écarter les jambes dans les transports en commun en s'asseyant, occupant donc plus d'un siège et gênant les autres personnes qui prennent également ce même transport en commun. Donc si on prête un peu attention, on remarque hyper souvent cette habitude dans les transports. Les hommes s'installent avec les jambes grandement écartées et ça gêne la personne assise à côté d'eux. En tant que personne perçue comme femme, je compte même plus le nombre de fois où j'ai dû me serrer pour prendre le moins de place possible alors qu'un homme était assis à côté de moi avec les jambes vraiment écartées et il prend donc plus de place que nécessaire. Mais ça soulève une autre problématique qui est tout aussi importante. Je veux parler de l'occupation de l'espace public en fonction du genre. On apprend aux personnes perçues comme femmes à prendre le moins de place possible, à se faire le plus discrète possible pour pas gêner et pas se faire remarquer. On peut d'ailleurs lier ça au harcèlement de rue, dont j'ai parlé dans une chronique précédente. On nous dit qu'il faut pas qu'on nous voit trop, pour pas qu'on nous remarque et qu'on nous laisse tranquille. Alors, en tant que personne perçue comme femme, on prend moins de place dans l'espace public et on y est nettement moins à l'aise que les hommes. De nombreuses études ont montré que l'occupation de l'espace public est très genrée. Il existe des endroits qui sont plus marqués par un genre ou par un autre, et on remarque dans ces études que l'espace public s'est pas vraiment attribué aux personnes perçues comme femmes. On peut lier ça au fait que les personnes perçues comme femmes ont un sentiment de danger quand elles sortent à l'extérieur. Cette occupation de l'espace public genré, ça commence dès l'enfance. On peut facilement constater que lors des récréations à l'école, les enfants n'occupent pas l'espace de la même façon en fonction de leur genre. Les petites filles ont tendance à avoir moins de liberté dans leurs mouvements et on remarque que leurs jeux prennent moins de place que ceux des petits garçons. Donc, assez logiquement, ça se prolonge en grandissant. Et cet apprentissage de l'occupation de l'espace public, ça reste dans l'inconscient des personnes perçues comme femmes. On a donc le réflexe de prendre moins de place dans cet espace. La façon d'être dans l'espace public, c'est aussi très lié à l'histoire des luttes féministes. Au début de celle-ci, l'intérieur de la maison, c'était l'espace dédié aux femmes, et l'extérieur, c'était l'espace dédié aux hommes. Et c'est en luttant contre ça et en demandant l'accès à l'espace public qu'on a acquis le droit de pouvoir disposer de cet espace comme on l'entend. Cependant, malgré ces luttes, l'espace public, ça reste quand même très genré, même si légalement, il n'y a rien qui nous empêche d'évoluer dedans. Les stigmates de l'histoire, elles sont encore vachement visibles, et on voit que les personnes perçues comme femmes ont beaucoup moins tendance à sortir seules, surtout le soir. Pour conclure, je vais dire qu'il y a encore quand même pas mal de travail. Les personnes perçues comme femmes, elles veulent avoir le même accès à l'espace public sans être gênées par le comportement des hommes. On veut tout simplement pouvoir prendre une place dans celui-ci sans devoir se faire le plus discrète possible. Ça vaut pour le manspreading comme pour l'occupation de l'espace public en général. Il faut nous laisser de la place, nous aussi on a le droit d'être là.
Merci beaucoup Chloé pour ta chronique, en tout cas tu seras toujours la bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. On écoute maintenant une jolie balade sonore réalisée par Elisa dans un lieu emblématique de la ville, plein de poésie et de douceur quand on n'y entend pas les sirènes des pompiers ou que notre micro ne se fait pas grignoter par les chèvres.
Rue Borot, Jardin des Plantes d'Angers. J'adore les vieux arbres et il y a très très beaux arbres avec une énergie magnifique. Moi j'adore, donc j'aime ressourcer ici.
C'est un jardin très joli qui est vraiment très bien aménagé par la ville d'Angers. Et puis c'est agréable, il n'y a jamais de soucis dans ce jardin aussi. C'est un jardin calme, on va dire ça comme ça.
J'affectionne beaucoup ce parc puisqu'il y a des arbres millénaires. Il y a des couleurs magnifiques. Si on s'intéresse à la peinture, aux impressionnistes, les parfums aussi.
J'adore la nature et avoir une part de nature en pleine ville, ben, c'est super agréable.
Mais quelquefois on passe quelque part et puis on dit ça sent quoi ? Puis on trouve pas toujours.
Ouais. Hein ? Oui, tu sais, des odeurs, mais même des odeurs de la nature. Là, on sent le frais, le bien-être.
La végétation de toutes les couleurs, de divers arbres, ça reflète vraiment une diversité. Un petit tableau végétal, c'est magnifique.
Quelquefois, je rencontre aussi des petites dames avec qui je peux parler. Comme je vis seule, c'est très bien.
Il y a quelque chose que j'affectionne beaucoup quand je viens ici le matin, qu'il y a très peu de monde. Le bonheur d'observer une petite cabriole d'un apéro ou d'un lapin.
Il manque d'enlever les effets négatifs de la vie. C'est un havre de paix.
C'est la fin de cet optimiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas, je vous le donne en mille, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Vous pouvez réécouter l'émission sur le www.radiocampusangers.com.